Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Lumier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. La semaine dernière, si vous étiez à l'écoute, vous vous en souvenez peut-être, nous parlions ici de l'économie ivoirienne à l'occasion de l'escale parisienne du président Alassane Ouattara. Après cette escale, le chef de l'État ivoirien a poursuivi son périple européen par un déplacement à Berlin. Berlin où se tenait la conférence sur le partenariat du G20 avec l'Afrique. 9 chefs d'État africains avaient fait le déplacement à l'invitation de la chancelière Angela Merkel. À cette occasion, réagissant à la volonté de l'Allemagne de lancer un plan Marshall pour l'Afrique, Alassane Ouattara déclarait ceci.
Pour ma part, je salue cette excellente initiative qu'est le plan Marshall avec l'Afrique, dénommé maintenant plan Merkel.
Cette idée de plan Marshall pour l'Afrique chemine depuis de longs mois. Au mois de juillet 2015, le président guinéen Alpha Condé l'évoquait déjà.
On a demandé un soutien budgétaire de ce montant. On a demandé en même temps l'annulation de la dette et un plan Marshall. Le plan Marshall, c'est un peu ce qui a été fait, c'est-à-dire, c'est comme si nous sortions de guerre et pour relancer notre économie, comme les États-Unis avaient fait ça pour l'Europe, nous demandons cela.
4 mois plus tard, on retrouvait la même expression dans la bouche du président Issoufou du Niger.
Il me semble que l'aide publique au développement ne suffira pas. Les besoins sont énormes. C'est pour cela que dans nos propositions, nous avons estimé qu'il faut monter un véritable plan Marshall pour faire face à ce phénomène migratoire. Et au-delà, je pense que ce à quoi il faut penser, c'est à la réforme de la gouvernance économique mondiale.
Alors un plan Marshall, pour quoi faire? Avec quels moyens? Financé par qui? Conçu par qui? Pour le bien de qui? Voilà quelques-unes des vastes questions que je vais poser aux 3 invités que je vous présente maintenant. Bonjour Chérif Salissi.
Bonjour Jean-Pierre.
Chérif Salissi, vous êtes économiste sénégalais, vous avez été ministre au cabinet du président de la République, directeur général de l'ANCAR, l'Agence nationale de conseil agricole et rural. En 2 mots, un plan Marshall, ce serait une bonne chose pour le Sénégal?
Je ne crois pas, parce que tous ces gens-là qui parlent du plan Marshall ne lui donnent pas la même définition.
On verra ça. On verra avec ça. Nous également dans ce studio, Grégoire Rota-Graziosi, bonjour.
Bonjour monsieur Boris.
Grégoire Rota-Graziosi, vous êtes directeur du CERDI, le Centre d'études et de recherche sur le développement international de réputation mondiale, qui est installé à Clermont-Ferrand. De 2010 à 2015, vous avez été en poste au FMI, où vous avez travaillé sur les politiques budgétaires pour les pays d'Afrique. Est-ce qu'à cette époque, l'idée d'un plan Marshall pour l'Afrique, ou avec l'Afrique, cheminait au FMI, dans les couloirs du bâtiment?
Non, absolument pas. On ne parlait pas de plan de Marshall. En revanche, on travaillait sur notamment les infrastructures GAP, enfin l'écart, le problème d'infrastructure et de financement de ces infrastructures. Mais le plan Marshall n'était pas évoqué.
Je termine ce premier tour de table par vous, Armelle Lecomte. Bonjour.
Bonjour.
Armelle Lecomte, vous êtes une des porte-parole de l'ONG Oxfam France pour les questions énergétiques et climatiques. Les accords de Paris de la COP21, est-ce que ça à valeur de plan Marshall pour l'Afrique, pour vous?
Pas tout à fait, parce que l'accord de Paris il fixe les grands principes, limiter le réchauffement à 2 degrés. Et maintenant, la question, c'est quels vont être les moyens financiers mis à la disposition des pays en développement qui subissent de plein fouet les impacts du changement climatique. Donc, pas tout à fait.
Le plan Marshall, au cours de cette émission des reportages, nous irons retrouver Laetitia Bezin à Madagascar et Lisa Fabian à Johannesburg. Mais il est impossible de commencer cette conversation, ce débat, sans rappeler d'abord ce qu'a été le plan Marshall en son temps. Nous sommes en 1947, 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe est dévastée et éprouve d'énormes difficultés à se reconstruire. Le 5 juin 1947, dans les locaux de l'université de Harvard, le secrétaire d'État américain George Marshall prononce ce qui entrera dans l'histoire comme le discours du commencement.
The modern system of the division of labor upon which exchange of product is based is in danger of breaking down.
Le système moderne de division du travail sur lequel est fondé le commerce mondial menace de s'effondrer. En vérité, l'Europe a besoin pour les 3 ou 4 prochaines années de produits alimentaires et d'autres produits essentiels pour un montant qui excède très largement ses capacités de paiement, au point qu'il lui faut une aide extérieure substantielle ou à défaut elle s'enfoncera dans un chaos économique, social et politique. Le remède consiste à briser le cercle vicieux et à restaurer la confiance des habitants de l'Europe tout entière. Le fabricant et le fermier, dans de très vastes régions, doivent pouvoir et vouloir échanger leurs produits contre des monnaies dont la valeur constante ne fasse pas de doute. En dehors de l'effet démoralisant qu'a le désespoir des peuples en question sur le monde entier, les conséquences de cette situation pour l'économie des États-Unis devraient être évidentes pour tous. Il est logique que les États-Unis doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour aider à rétablir la santé économique du monde, sans laquelle la stabilité politique et la paix assurée sont impossibles. Notre politique n'est dirigée contre aucun pays, aucune doctrine, mais contre la famine, la pauvreté, le désespoir et le chaos.
Deux ans plus tard, fin 1949, le ministre français de l'Information, Pierre-Henri Tedjen, fait le bilan du plan Marshall pour l'économie française.
Nous avons reçu chaque jour, depuis un an, pour 1 milliard de francs de marchandises qui nous sont donnés par les Américains. De telle sorte qu'à l'heure actuelle, 60% de nos commandes à l'extérieur nous étant fournies gratuitement, l'essentiel du problème se trouve réglé. Mais ce plan Marshall, il cessera de jouer en 1952. Dès lors, il faut à tout prix qu'à ce moment-là, nous ayons reconstruit, modernisé, rééquipé notre industrie et notre agriculture, de manière à ce qu'elle puisse produire, en plus de ce qu'il nous faut pour nous-mêmes, tout ce qu'il nous faudra vendre à l'étranger pour équilibrer nos importations.
Comme le disait Pierre-Henri Tedjen à l'époque, le plan Marshall se termine effectivement en 1952. Au total, pendant la période, le produit intérieur brut européen aura augmenté de 30% et coûté aux États-Unis 13 milliards de dollars de l'époque, soit environ 200 milliards de dollars de notre époque. Alors je vous pose à tous les trois la question, est-ce que l'Afrique a besoin d'une nouvelle initiative d'aide massive du monde développé, différente de ce qui s'est fait jusqu'à présent en matière d'aide internationale, Chérif Salif Sy?
Je ne crois pas. Déjà, il y a un gros souci relativement aux engagements internationaux des partenaires de l'Afrique. Ils ne respectent jamais. À aucun moment, ils n'ont respecté les engagements qu'ils ont pris. Et chaque fois, ils paraissaient effrayés par les besoins de l'Afrique. Je crois qu'il faut trouver une autre stratégie pour le continent. Étant entendu, j'essaierai de revenir là-dessus, qu'on parle rarement du fond, des fondements idéologiques du plan Marshall, qui consiste en l'extension du libre-échange à travers le monde. Je crois que c'est pour ça que dans un volet du plan Marshall, il était exigé impérativement la décolonisation pour insérer ces économies dans l'économie marchande. Si on fait un plan Marshall, ça consiste à formater une économie. La question fondamentale pour moi, c'est de voir on formate pour qui ? Est-ce pour les besoins du marché intérieur et des marchés africains ou est-ce simplement un formatage selon l'esprit de doing business pour attirer l'investissement étranger qui tarde à venir en Afrique ?
Ahmed Lecomte.
Oui, je pense que déjà, faut regarder ce qu'a permis de faire l'aide publique au développement ces dernières années. Depuis 20 ans, il y a plus d'un milliard de personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté dans le monde grâce à l'aide publique au développement. Donc ça marche, ça a des impacts notamment en Afrique. Depuis le début des années 90, la mortalité maternelle a diminué de près de moitié. Donc on voit que ces investissements et cette aide publique, elle fonctionne. Mais comme j'avais le dit de manière très vraie, c'est que les États, les bailleurs ne respectent pas leurs engagements. Il y a plus de 40 ans, ils ont promis que 0,7% du PIB irait vers l'aide au développement. La France, aujourd'hui, est très très loin du compte, à 0,35%. Et il y a très peu d'États aujourd'hui qui respectent ces engagements. Donc avant de parler déjà d'un plan Marshall, il faudrait que tous les États, la France et d'autres pays européens, respectent leurs engagements et augmentent les financements qui aujourd'hui aussi, on le voit, c'est une tendance qui s'accélère, des flux financiers qui sont détournés pour contrôler les migrations. Au lieu d'aller vers le renforcement de systèmes de santé, de systèmes éducatifs, on voit qu'un certain nombre de pays européens, y compris certains pays nordiques, détournent cette aide pour lutter contre les migrations ou faire un peu un échange, c'est-à-dire on va donner de l'aide au développement un certain pays, mais par ailleurs, on veut que vous contrôliez les migrations, et ça, c'est inacceptable.
Grégoire Targaryen, est-ce qu'il faut un plan Marshall pour l'Afrique, un nouveau système, une nouvelle organisation de l'aide internationale ?
Je suis d'accord avec les interlocuteurs. Pour répondre directement, comment dire, revenir sur déjà le plan Marshall historiquement, c'est 2,5% du PIB des pays receveurs, des pays européens. Donc c'est pas énorme. En revanche,
à l'époque, hein,
à l'époque, mais ce n'est pas énorme, ce n'est pas des montants astronomiques. En revanche, et là, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur
Chérifsi,
excusez-moi, il y avait une doctrine derrière. Et par exemple, les Britanniques ont été condamnés. C'est-à-dire ils n'ont plus le droit d'importer du bois sous le plan Marshall parce qu'ils avaient lancé un programme de logements sociaux publics. De même, la pression américaine...
Et alors
ils n'ont plus à importer de bois sous le plan Marshall.
Mais le plan Marshall interdisait ce genre de programme ?
Le plan Marshall privilégiait l'économie de marché. Dans des pays comme la France ou l'Italie, où le Parti communiste était important, il faut bien prendre en compte qu'il y avait une doctrine derrière, favoriser l'économie de marché, et c'était explicite en deux étapes. D'abord, relancer la productivité des économies européennes et ensuite voir les problèmes de redistribution de la richesse créée. Ça se faisait en deux étapes. Là, je ne suis pas sûr que l'Afrique, dans le cadre africain actuel, ces mêmes questions soient d'actualité ou soient aussi présentes.
Oui, mais quand on parle de plan Marshall, il n'est pas question de dupliquer mot pour mot ce qui s'est fait il y a 70 ans.
Bien sûr.
Évidemment, il ne s'agit pas de dupliquer. Mais quand même, les fondamentaux, c'est important. Je crois que, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé au sorti de la guerre? Les États-Unis découvrent à quel point ils ont tiré les leçons de la crise de 29. La deuxième chose, la bourse de New York a renversé celle de Londres. New York est devenue la place financière la plus importante. Troisième élément, les deux tiers des réserves d'or mondiaux étaient entre les mains des États-Unis. Quatrième point, ils ont perçu que toute cette force des États-Unis, qui est restée la seule nation debout parmi les pays industrialisés, était dû au libre-échange. Mais le libre-échange, fondamentalement, il y a des contreparties. La contrepartie, c'est l'extension du salariat en Europe pour intégrer justement les salariés sur ce marché libre, l'ouverture des colonies aux biens et services dans un contexte de libre-échange. Et aujourd'hui, si vous faites ça pour l'Afrique, à peu de choses près, vous laissez de côté la partie qui me paraît la plus importante dans la coopération internationale aujourd'hui, la solidarité. Le libre-échange, à mon avis, philosophiquement, est antinomique avec la coopération et la solidarité. Et l'Afrique a besoin de solidarité. Et de solidarité sur des choses simples. Pas sur des engagements, sur des montants qu'on n'arrivera jamais à mobiliser.
Que eux, Africains, n'arriveront jamais à mobiliser.
Non, vous connaissez, j'ai été quand même un des principaux responsables du NEPAD, qui est le programme économique et social de l'Afrique. Dans notre démarche, la question de fond pour l'Afrique, c'est la mobilisation de son apport propre. Il faut que l'Afrique cesse de s'adosser de cette façon au reste du monde. Et dans aucun gouvernement africain, vous avez une stratégie de mobilisation des ressources internes. Et lorsqu'il y a des fêtes à longueur d'année, on voit les énormes quantités d'argent mobilisées par les populations et qui ne vont pas dans le secteur productif. Il faut que les gouvernements jouent leur rôle de sensibilisation en montrant que c'est le développement sur les infrastructures de développement, écoles, santé, hôpitaux, c'est ça qui fait le développement. L'Afrique est capable, les Africains sont capables de mobiliser des ressources, mais cela ne se fait pas à cause du leadership qui est défaillant, que ce soit le secteur privé, que ce soit l'État, que ce soit la chefferie traditionnelle. Globalement, les leaderships en Afrique sont défaillants sur cette question de mobilisation des ressources.
Grégoire Ottagraziosi, qui n'en a pas.
Oui, je serais ravi de débattre sur la question de la mobilisation des recettes, c'est en plus ma spécialité. Juste un point, le plan Marshall ou le plan Merkel, il faut ne pas être naïf, le plan Merkel, c'est une réponse quand même à la crise migratoire. Or, la plupart des travaux, même tous les travaux universitaires, montrent que si un pays s'enrichit, un pays en développement s'enrichit, les migrations augmentent. Donc, il y a une relation une relation en cloche, si vous voulez, jusqu'à 7 000 $ de PIB par tête. Plus le pays devient riche, plus les migrations augmentent. Donc, ce plan Marshall va augmenter la pression migratoire sur l'Europe. Donc, effectivement, au niveau politique interne en Allemagne, c'est une réponse pour Mme Merkel en anticipation des élections, pour essayer de répondre à cette crise migratoire vis-à-vis de son électorat. Mais en aucun cas, il ne faut croire que ce plan Marshall va réduire la crise migratoire. Il faut atteindre 7 000 $ de PIB par tête. C'est le niveau de l'Albanie ou de la Colombie, par exemple.
On en est loin en Afrique, dans la plupart des pays africains.
On est à 500 $ au Niger.
Je peux répondre sur cette question. sur plusieurs points. D'abord, sur la question de l'immigration, il y a un vrai problème aujourd'hui aussi, et c'est un peu une bataille culturelle, mais de penser que l'immigration est une mauvaise chose et qu'il faudrait absolument l'empêcher. Et je rejoins ce que vous dites sur la question de plus un pays se développe, plus l'immigration va augmenter. C'est le cas de pays développés. Il y a énormément de Français, par exemple, qui vivent à l'étranger, et pareil pour des Allemands ou des Britanniques. Et c'est pas une mauvaise chose. Et c'est cette philosophie de dire on va aussi faire de l'aide publique au développement pour limiter la migration, c'est quelque chose qui déjà pose problème de base, et c'est vraiment une idéologie actuelle qui pose énormément de questions. Et je voulais revenir sur ce que disait Chérif sur la question de la mobilisation des ressources domestiques, et ça rejoint des débats actuels sur les questions d'évasion fiscale, par exemple. Et aujourd'hui l'Afrique souffre de ça. Il y a environ 30% de la richesse qui est détenue par les Africains les plus riches, qui est aujourd'hui dans des paradis fiscaux. Ça représente un manque à gagner de 14 milliards de dollars. C'est de l'argent qui appartient aux Africains, qui pourrait être investi en Afrique, dans des infrastructures de développement, pour renforcer les systèmes de santé, d'éducation, qui sont des enjeux majeurs de développement. Donc il y a vraiment, pour résumer, il y a deux grands enjeux. C'est à la fois de lutter contre l'évasion fiscale, et ça passe par le renforcement des systèmes africains, que ça soit de taxation, des entreprises, des particuliers, mais aussi, dans un autre aspect, que les États industrialisés tiennent leurs promesses. Et là, ça pose tout un tas de questions sur aujourd'hui la philosophie des investissements qui peuvent être faits, par exemple dans le secteur de l'agriculture, où vraiment les bailleurs privilégient un environnement favorable pour les entreprises, les multinationales. Il faut favoriser ce genre d'investissement, et ça se fait au détriment des agriculteurs africains qui sont face à une compétition déloyale de la part de grands groupes. Donc ça pose aussi des questions sur ce plan Marshall. C'est oui, il faut plus d'argent, déjà respecter les promesses, mais après, qu'est-ce qu'on fait de cet argent, et est-ce qu'il va aller vraiment aux populations les plus vulnérables, et notamment aux paysans et aux paysannes d'Afrique?
Chérif Salif, si, alors pourquoi est-ce que ces présidents africains réclament un plan Marshall?
Mais je crois que c'est dans l'air du temps. Il arrive que lorsque les choses sont dans l'air du temps, chacun développe sa philosophie. Mais le problème, c'est les faits dans la politique économique. C'est à partir de faits qu'il faut... Je vais vous donner un exemple. Bien sûr, la zone franc n'est pas l'Afrique. Mais vous prenez la zone franc. Ces quatre dernières années, l'euro a perdu 20% de sa valeur. Plus de 20% de sa valeur. Le rapport CFA-euro n'a pas changé.
Par rapport au dollar.
Ça a profité aux entreprises européennes, aux pays européens. En termes de solidarité, qu'est-ce qui a été fait? Rien du tout. Donc la solidarité, c'est pas une chose dont il faut parler comme ça en l'air. Il faut être très sérieux. Maintenant, si on mettait cet apport massif d'argent, je reste toujours dans la zone CFA. J'ai montré dans un livre qui est paru en 2000, Le Sénégal à la veille du troisième millénaire, que rien qu'avec les ressources des Sénégalais, des Sénégalais, hein, pas des expatriés qui y sont, des Sénégalais, chefs d'entreprise et autres, les fuites, c'était 2400 milliards de francs CFA vers l'Europe en toute illégalité à cause de la survivance d'un aspect des plus néfastes du pacte colonial, le transfert illimité. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez le Sénégal concrètement, vous prenez le PIB par tête, il est de 1000 dollars. Vous regardez le revenu réel par tête, il est de 500 dollars. C'est à cause de cette fuite. Moi, je crois que ce sont ces questions qu'il faut régler. Comment faire en sorte que l'argent créé, les ressources additionnelles créées, restent sur le continent et à la faveur des infrastructures développantes et des populations? Et on ne parle pas de ça, on reste sur des généralités quand on parle de plan Marshall.
Les généralités, on essaiera de les creuser un peu dans la deuxième partie de l'émission, Chérif Salif-Sy. C'était Éco d'ici Éco d'ailleurs, et nous continuons à parler de cette question passionnante dans quelques minutes après un flash d'actualité.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, une question est posée. Faut-il un plan Marshall pour l'Afrique? Trois invités apportent leurs réponses. Armelle Lecomte, porte-parole de l'ONG Oxfam France. Grégoire Rota-Graziosi, professeur d'économie au CERDI, le Centre d'études et de recherche sur le développement international à Clermont-Ferrand. Et l'économiste sénégalais Chérif Salif Sy. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu ce qu'avait été après la Deuxième Guerre mondiale le plan Marshall, le vrai, et nous avons vu que tant du côté de certains dirigeants européens qu'africains, on évoquait l'hypothèse d'un plan Marshall pour l'Afrique. L'un des gros problèmes de ce continent, c'est l'absence criante d'infrastructures. Écoutez ce que disait ainsi le président sénégalais Macky Sall au mois de mai dernier pour justifier cette idée d'un plan Marshall.
Nous avons des économies très fragiles encore et nous avons besoin de ressources longue durée qui permettent le financement de l'infrastructure. Et c'est sur la base de cela que le financement privé viendra prendre le relais pour l'exploitation et pour la maintenance des infrastructures.
Vous parlez d'un plan Marshall pour l'Afrique.
Il faut un plan pour l'Afrique, on peut l'appeler comme on veut. J'ai fait référence au plan Marshall pour l'Europe puisque l'Europe en a bénéficié en effet après la Seconde Guerre. L'Asie a bénéficié de financement approprié. Nous ne demandons pas tant l'aide plutôt que de la participation de pays développés dans le financement à long terme de l'Afrique de façon à apporter la part de l'Afrique dans la croissance mondiale.
Le président sénégalais Macky Sall au micro de Nicolas Champeau du service économique des RFI. Des infrastructures financées par l'aide publique à long terme et le privé qui viendrait se charger de l'entretien, c'est ce qu'il faudrait, Grégoire Rota-Graziosi?
Il faudrait voir les modalités, honnêtement, risque d'être assez coûteux à la fin pour les États africains. Il faut bien vous rendre compte que ce plan Marshall, s'il est massif, l'aide en général est défiscalisée, donc elle est exonérée. Donc c'est un peu contradictoire en ce
moment. Mais défiscalisée pour qui? Pour ceux qui apportent l'argent ou pour ceux qui le reçoivent?
Défiscalisé pour les États africains qui reçoivent cette aide. Donc vous avez des effets un peu de malédiction de l'aide. Ça a été décrié, décrit et tout. Même titre que la malédiction des ressources naturelles. C'est-à-dire que vous allez avoir une aide massive, très massive, dans un pays. Et cette aide, elle n'est pas taxée, n'est pas imposée. Elle donne lieu, en plus, à plein de problèmes d'évasion fiscale, de fraude et compagnie.
De corruption?
De corruption, bien sûr. Quand vous avez Oxfam qui importe peut-être un 4x4 bénéficiant d'une exonération, Oxfam ne peut pas vérifier si quelqu'un d'autre, se réclamant d'Oxfam, importe, avec la complicité du douanier éventuellement, d'Oxfam. Et donc, du coup, vous avez un marché des 4x4 qui est complètement parallèle au système légal à cause de ces exonérations, de ces régimes dérogatoires.
Je ne suis pas sûr que le plus gros problème soit les 4x4 que des ONG internationales.
Ah oui, regardez. La crise d'Haïti, le tremblement de terre, on a estimé, enfin le FMI avait estimé, qu'une taxe de 5% sur tous les 4x4 importés par les ONG, l'USAID et compagnie, équivalait à une fois et demie le budget de l'État.
Donc,
c'est énorme. Donc, non, mais juste, voilà, une taxation de l'aide, déjà, permettrait de responsabiliser les États, rendrait aussi les ONG et les bailleurs redevables, et pourraient demander des comptes à rendre sur les dépenses, comment ces dépenses sont réalisées par les États, puisqu'ils sont contribuables.
Mais est-ce que ça ne viendrait pas contredire la demande de solidarité que faisait Chérif Salif Sy dans la première partie de l'émission? Il disait qu'il faut une solidarité des pays développés avec les pays africains.
Mais je suis d'accord avec lui, une solidarité, que ceux qui s'installent aussi en Afrique, qui s'équipent, payent les impôts à un moment donné. Il y a dans les lois, en général, un délai. On vous dit, vous avez 2 ans, vous vous équipez, tout ce que vous importez, vous ne payez pas, mais par la suite, vous payez. Ce n'est pas le cas. Moi, je voudrais aussi insister sur la philosophie dégagée par le président du Sénégal, qui est une démarche sénégalaise. Ça vient de loin. Et pour confirmer que, quand je dis que un plan Marshall tel que décrit ne serait pas la meilleure chose, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser la coopération. Il est évident aujourd'hui qu'aucun pays ne réunit dans ses frontières les ressources nécessaires pour ses développements. Autrement, les États-Unis ne seraient pas le pays le plus endetté. On a besoin de ressources extérieures, de ressources longues. Mais il faudrait que les ressources, encore une fois, aillent dans le secteur productif. J'ai été parmi les experts de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour étudier l'impact de l'aide et de son efficacité. J'ai étudié quelques 6 pays, mais je me limite aux commentaires sur le Sénégal, qui est similaire à ce qui se passe dans d'autres pays. 90%, 80 à 90% de l'aide publique au développement sert à payer des salaires.
De qui ?
Des salaires des fonctionnaires de l'État. Des salaires de fonctionnaires de l'État. Il y a que quelques rares pays, comme vient de le décrire Armel, où effectivement l'aide publique a véritablement servi dans la santé, c'est le Cap-Vert et d'autres pays, mais ils ne sont pas plus de 5. Mais pour l'essentiel, c'est des salaires. Et ça arrange les donateurs et ça arrange les pays receveurs. Je crois que c'est ce type de vase communicant qu'il faut véritablement détruire et se fonder sur d'autres paramètres pour le développement économique.
Armel Lecomte, l'aide que les pays développés amènent aux pays africains est en train d'être mise en procès dans cette émission. Que l'ONG Oxfam que vous représentez ici répond-elle ?
Mais moi, je suis un peu surprise qu'on fasse le procès de l'aide au développement pour dire qu'elle pourrait être mieux ciblée, mieux utilisée et mieux accompagner les pays receveurs. On est d'accord. Mais l'aide au développement a permis des progrès énormes. Que ce soit en Afrique, mais aussi en Asie. Et je le répète, grâce à l'aide publique au développement, il y a quand même plus d'un milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Donc la question de comment cette aide est utilisée, comment est-ce qu'elle permet vraiment de cibler les plus vulnérables, là on est d'accord qu'il y a un vrai problème. Par exemple, la France s'est engagée dans une de ses lois à dire 85% de son aide publique au développement doit aller à l'Afrique et aussi une partie du Moyen-Orient. Au final, il y a seulement un quart de l'aide française qui va en Afrique, et il y a eu des coupes budgétaires extrêmement importantes durant le mandat de François Hollande. Donc la question, c'est qu'il faut plus d'aide, parce que les pays en développement, je le répète, ne respectent pas les promesses qu'ils ont faites devant les Nations Unies depuis plus de 40 ans, mais aussi que cette aide doit être mieux distribuée, mieux ciblée vers les pays les plus vulnérables, et surtout aujourd'hui, il y a toute cette question de le financement privé va nous sauver. Le financement privé va permettre de développer l'Afrique et d'autres régions du monde. Et là, il faut être quand même très, très prudent parce que on a besoin de services publics forts en Afrique, et notamment sur toutes ces questions de fiscalité dont on parle. Parce que, évidemment, déjà aujourd'hui, par exemple, si je regarde un peu ce qui se passe au niveau des financements pour le climat, dans la lutte contre le changement climatique, il y a des pays comme la Tanzanie ou l'Éthiopie qui mobilisent plus d'argent chez eux pour le climat que ce qu'ils reçoivent des bailleurs internationaux. Et donc, c'est en renforçant aussi les administrations fiscales en Afrique qu'on va pouvoir aussi répondre à cette question de mobilisation des ressources internes. Mais il y a aussi toute cette question de créer un environnement favorable pour les entreprises, les multinationales. Et on voit ça très bien dans la question agricole. Et ça pose de vraies questions d'argent qui finalement profite à des multinationales des pays riches et pas du tout aux paysans qui quand même permettent de nourrir 80% de la population en Afrique.
Grégoire Rotagraziosi, l'idée d'un plan Marshall, finalement, ce serait une très très mauvaise idée ?
Non. Disons que la question, si on généralise, renvoie, on a abordé ce thème sur l'efficacité de l'aide. Il y a eu des débats, il reste des débats universitaires, si vous voulez, et l'aide elle-même a évolué depuis Marshall. Aujourd'hui, les universitaires et les institutions internationales et nationales prônent plutôt une appropriation de cette aide par les pays receveurs, et également fonder les flux d'aide sur des mesures, sur des critères de performance, sur des objectifs observables et mesurables. Mais je vous avoue que effectivement, l'aide et l'efficacité de l'aide provoque des débats assez
Mais est-ce qu'on peut imaginer, alors les États-Unis, c'est difficile vu la position de l'administration de Trump, mais les Européens, les Chinois, les Japonais, les grands bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le FMI, que sais-je, de se réunir autour d'une table. On pourrait les inviter à RFI, discuter. décider, on va là, on débloque 1 000 milliards de dollars sur les 10 ans à venir pour l'Afrique, chérie Salif. Si ça, c'est imaginable
qu'on se voit. Mais cela a été fait dans le contexte du Népal. Il y avait le groupe africain, les représentants des chefs d'État, dont moi-même, qui était quand même le co-président de la direction continentale du Népal.
Oui, je n'ai pas cité tous vos titres chez
nous
celui-ci, parce que l'édition n'y suffirait
nous
pas.
Nous avions les Sherpas de tous les grands pays industrialisés. Michel Candessus et les autres, je ne vais pas les citer tous, chacun avait son stylo, sa feuille, sa calculette. On s'engageait, on
s'engageait.
C'était
signait. Quand ouais.
Mais il y a eu Kananaskis, 2002, 2003, c'était une période de très forts engagements. Mais rien à l'arrivée n'est arrivé. Je crois que c'est ça. Le problème, pour revenir à Armel, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi-même, j'ai dit très souvent, c'est irréaliste de refuser l'aide. Je l'écris d'ailleurs, c'est pas possible. Mais l'aide doit être un appoint. Je crois qu'il faut son apport personnel et qu'une partie de l'argent vienne de l'extérieur. C'est comme ça que tous les États ont fonctionné. J'ai dit aussi autre chose. Pourquoi l'aide sert-il si efficacement en Asie du Sud-Est et pas en Afrique? Et l'aberration, c'est que c'est une des caractéristiques de l'Afrique. Vous dressez la liste des 500 personnes les plus riches, mais ce sont des fonctionnaires. C'est inadmissible.
Enfin, Dangote, c'est pas fonctionnaire.
C'est inadmissible, ça veut dire... Non, mais ces gens-là étaient adossés. On sait comment ils sont devenus riches. Tout ça, au Cameroun, je vais pas citer de nom, et Dangote, vous l'avez cité, c'était des gens portés par des gouvernements. Et voilà, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Je suis pour cela. Je suis pour cela. Aider à se créer des entrepreneurs nationaux qui gagnent beaucoup d'argent et qui investissent. Mais c'est l'utilité de l'aide. L'orientation et l'utilité de l'aide. La population elle-même, vous enquêtez, et elle entend distribuer de l'aide à longueur de journée, qu'elle se pose des questions. Mais où est cet argent? Où va cet argent? On va donner 3 millions de francs CFA, c'est une colonne de 15, 4x4 qui vont distribuer l'argent, et vous dépensez 18 millions de carburant pour aller donner 3 millions, c'est irréaliste ce qui se passe en Afrique. Et cela interpelle les leaderships, je ne dis pas le leadership politique, mais cela interpelle fondamentalement les leaderships qui doivent changer quand même de comportement.
Je vous interromps parce qu'on va aller voir un exemple concret. À Madagascar, la Banque mondiale est un des plus gros bailleurs de fonds du pays. En janvier dernier, Makhtar Diop, le vice-président de la Banque pour l'Afrique, a annoncé l'octroi de 1,3 milliard de dollars à la Grande Île pour lutter contre la malnutrition et améliorer l'accès à l'électricité, car seulement 14% des Malgaches sont raccordés au réseau électrique. Et pour ceux qui ont accès, le service est très loin d'être satisfaisant. C'est un reportage Éco-d'Ici-Éco d'ailleurs, signé Laetitia Bezin, à Antananarive.
Infrastructure vétuste des années 80, ligne électrique saturée, administrée par une compagnie publique qui tourne à perte. À Madagascar, le piteux état du réseau d'électricité est un vrai handicap, explique Vondra Koutounjaman, spécialiste en énergie à la Banque mondiale.
Le manque d'accès à l'électricité a été identifié comme un obstacle au développement économique et social du pays, et qu'une meilleure accès à l'électricité va aussi améliorer des services de base comme la santé, l'éducation. Mais maintenant, je pense que les discussions sont dans le bon sens. Tout le monde voit que l'électricité pourrait changer donc la vie économique de Madagascar.
Au mois d'août, la Banque mondiale a lancé un projet de près de 60 millions d'euros pour aider le gouvernement malgache à améliorer l'accès à l'électricité. Mais les résultats tardent à venir. Le petit commerce de Sawa, poissonnière à Itos, un quartier excentré de la capitale, en fait souvent les frais. Ce matin, les congélateurs sont à l'arrêt.
Ils ont coupé les courants. On vit tout le temps dans le délestage, tout le temps. Ça abîme mon produit, des poissons comme ça, des crevettes. Vous voyez ça? C'est abîmé, quoi, à cause du délestage.
À la perte de marchandises, Sawa doit ajouter ses factures d'électricité. 67 000 arrières, soit 20 euros par mois, une fortune pour cette commerçante. De l'autre côté de la rue, Miard, un lycéen, dans sa chambre de 10 mètres carrés, son quotidien est rythmé par les coupures d'électricité.
Là, vous voyez vous-même, la lumière vient de s'éteindre. C'est encore une coupure. On ne sait pas quand ça reviendra. Parfois, ça coupe le matin et ça ne revient que le soir. La dernière fois, ma télé a grillé parce que la tension est revenu d'un seul coup. Je n'ose plus rien brancher. Tu vois là, notre petit frigo, je ne le branche plus, alors qu'il y a de la nourriture à l'intérieur.
Dans moins d'un mois, Miar passera son bac.
suis en train de réviser le soir et d'un coup, la lumière s'éteint. Donc je suis obligé d'aller acheter des bougies, mais mes factures d'électricité, je les paye quand même.
Il y a quelques semaines, Eric Ranjasan, l'un des administrateurs de la Jirama, l'entreprise publique de distribution d'électricité, avait garanti la fin des délestages dans la capitale.
Les coupures techniques, parce que la foudre est tombée, un transformateur a explosé ou un fil a été coupé, ce sont des choses inhérentes à la vie d'une société d'électricité et surtout une société comme la Jirama avec des installations aussi vétustes. Dans le cas particulier de la ville d'Antananarivo, aujourd'hui, il n'y a plus de délestage. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune décision de gestion pour supprimer la fourniture d'électricité.
Coupure volontaire ou accidentelle, l'amélioration de l'accès à l'électricité était une promesse de campagne d'Errazzo Narmampian, le chef de l'État malgache. Mais plus de 3 ans après son élection, la majorité de la population de la grande île continue à vivre dans le noir.
C'était un reportage éco-dissier-co d'ailleurs de Laetitia Bezin à Madagascar. Nous parlons de l'éventualité d'un plan Marshall pour l'Afrique avec 3 invités, Grégoire Rota-Graziosi, professeur d'économie au CRD à Clermont-Ferrand, Chérif Salifsi, économiste sénégalais, et Armel Lecomte, porte-parole de l'ONG Oxfam France. Grégoire Rota-Graziosi, vous écoutiez avec beaucoup d'attention ce reportage de Laetitia Bezin. Qu'est-ce qu'il dit de l'aide publique, de l'aide qu'apporte la Banque mondiale? Est-ce que ça semble inefficace finalement parce que il y a beaucoup de capitaux qui sont promis amenés vers Madagascar pour essayer d'alimenter la population en électricité et puis voilà le résultat.
Le plan Marshall, qui est le thème de cette émission, effectivement vise les infrastructures. Et les infrastructures, plus ou moins, on peut avoir quatre ou cinq secteurs. Les télécoms. Sont essentiellement financés de façon privée en Afrique. Et ça marche relativement bien. L'énergie est en plein essor. Et effectivement, là, on a association privée-publique avec des échecs et parfois des succès. Ou des succès et parfois des échecs. L'eau et les transports, là, sont beaucoup plus problématiques à cause de la visibilité, de la faisabilité des projets et même de leur profitabilité et de l'environnement politique risqué pour les investisseurs privés. Donc la Banque mondiale, en général, va essayer d'assister et de soutenir les projets privés via son bras armé IFC, c'est-à-dire la SFI.
La SFI, la Société financière internationale.
Voilà, exactement. Maintenant, Madagascar, en matière de pression fiscale, est peut-être l'un des pires pays avec la République démocratique du Congo en Afrique. De l'ordre de 9 à 10% de la pression fiscale. C'est-à-dire que les impôts représentent 10% du PIB du pays. Il faut atteindre 20% d'après les standards internationaux pour pouvoir financer des infrastructures et des dépenses de santé et d'éducation. Là, on est à 10%. Et pourtant, le système fiscal malgache est relativement bon. Ils ont simplifié au maximum leur impôt en prenant l'exemple de l'île Maurice. Mais là, Madagascar est largement victime de tous ces régimes dérogatoires, d'exonération et d'évasion fiscale, avec la proximité d'un pays dit à fiscalité privilégiée qui est l'île Maurice. Donc il faut que les politiques, et là je rejoins Monsieur Chérifsi, il faut que les politiciens prennent leurs responsabilités, qu'on améliore certainement les capacités des administrations fiscales et douanières de Madagascar pour améliorer la mobilisation des recettes et afin d'avoir aussi une meilleure transparence sur ces activités.
Mais comment est-ce qu'on peut prélever de l'impôt sur une population aussi modeste? Quand Laetitia Bezin rappelle que 20 dollars c'est une somme colossale pour cette commerçante...
C'est pas cette population-là qui est visée par le système fiscal. C'est plutôt les grands importateurs, les projets eux-mêmes qui sont financés par la banque devraient acquitter un impôt raisonnable. D'ailleurs, il y avait des engagements pris à Washington et malheureusement, ils ne sont pas appliqués sur le terrain en général.
Chef Salissi, par ailleurs, toujours sur cette question d'énergie, Barack Obama avait lancé un programme qui s'appelle Power Africa, qui faisait appel à des investisseurs privés pour investir massivement en Afrique. Est-ce que c'est le genre de choses qui peut s'intégrer dans un plan Marshall? Est-ce que ce plan Marshall dont on parle, ça pourrait être une alliance, un partenariat, comme on dit beaucoup, public-privé?
Mais je disais qu'il faut effectivement un partenariat public-privé, mais commencer par les privés locaux. Je crois que c'est ça, il faut les mobiliser. Elle a bien raison. En parlant sur les secteurs privés, moi je viens de sortir d'une évaluation de la formation brute de capital fixe, l'investissement dans le programme émergent du Sénégal. L'investissement est de 52% pour l'État, 20% pour le secteur privé et 25% c'est de l'aide. L'aide, personne n'en parle. Vous voyez à quel point tout cela est nocif quand même pour un pays. Ce n'est pas une bonne chose. La question énergétique...
Ce qui est nocif, c'est qu'il y ait 25% d'aide ou qu'on n'en parle pas?
Oui, on n'en parle pas. Et la part de l'aide quand même, de 25% qui équivaut à l'apport du secteur privé, c'est très inquiétant tout de même. C'est très inquiétant tout de même.
Privé local,
privé local, c'est trop faible.
Qu'est-ce qui est trop faible, le privé?
Ah oui, absolument, c'est excessivement faible. C'est-à-dire que l'État s'engage toujours, l'État s'endette actuellement. D'ailleurs, on a de grosses inquiétudes par rapport à l'endettement des États et quasiment de tous les États africains. Ils continuent à s'endetter de façon très inquiétante. Et à la longue, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui est arrivé dans la période de l'ajustement structurel, on emprunte encore pour payer des intérêts. Le stock du principal, il reste toujours là. Je crois que c'est une situation grave. Mais je confirme que la question énergétique, comme vient de le dire Jules, moi je suis heureux que cela intéresse tout le monde. Mais le paradoxe, c'est que Akon, l'artiste américain, le chanteur d'origine sénégalaise, a son programme, Borloo a son programme, les pays, Obama a eu son programme, mais chacun apparemment a oublié que l'Afrique avait son programme énergétique à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Je suis membre du comité des experts de haut niveau sur la question énergétique. Aucune de ces démarches, de ces initiatives n'a consulté ou pris en compte ce que nous faisions, nous, en tant qu'Africains, avec tous les experts du continent, avec une participation très très importante du secteur privé international, asiatique et autres. On ignore royalement ce que les Africains font. Chaque fois, on vient peser sur ce qu'ils font. Parfois, on commet un expert occidental qui dit que votre programme et votre projet n'est pas bon. Cela continue à se passer comme ça en Afrique. Et je termine par là. Pourquoi la question énergétique est extrêmement importante? Vous prenez les pays asiatiques dits émergents. Il y a plusieurs listes. Hein. L'OCDE a sa liste, la Banque mondiale, le FMI a sa liste. Figurez-vous que dans les pays émergents, dits émergents en Afrique, 75% de l'énergie commerciale distribuée va dans le secteur productif. La moyenne en Afrique, c'est 3% de l'énergie commerciale distribuée qui va dans le secteur productif. Voilà, je crois, des points sur lesquels il faut se concentrer et se mobiliser concrètement pour régler le problème. Les besoins pour régler définitivement la question de l'énergie en Afrique, c'est 96 milliards de dollars. C'est quand même rien du tout.
Alors, on va continuer avec cette question énergétique. Armel Lecomte, je vous donnerai la parole après, parce qu'on doit partir en Afrique du Sud pour voir ce qui se passe avec le gaz naturel. Parce qu'une des pistes, c'est l'utilisation du gaz naturel pour alimenter les usines dont l'Afrique rêve de s'équiper. Le gaz naturel dont le continent regorge. Mais on en est très loin parce que c'est très difficile. Ça ne se fait pas. Reportage de Lisa Fabian à Johannesburg.
Le gaz est une ressource naturelle d'avenir pour l'Afrique et représente peut-être une solution pour la production d'électricité sur le continent. Mais en dépit de la multiplication des projets, l'exploitation de cette ressource reste balbutiante, comme le rappelle Rodney McAllister, le président de la compagnie Monetizing Gas Africa.
Le gaz est l'énergie fossile la plus propre, plus disponible et moins chère que le nucléaire. Il y aurait 600 trillions de pieds cubes de gaz sur le continent. Moins de 10% sont actuellement monétisés et plus de la moitié sont gaspillés par torchage.
Le continent souffre encore d'un réel déficit d'infrastructures. Une meilleure coopération entre les pays est essentielle, selon l'analyste nigérian Ezekiel Adesina.
Des infrastructures a été une contrainte majeure. Nous devons créer ces infrastructures pour permettre le transport du gaz dans le corridor ouest africain. Ensuite, il faut une intégration régionale. Certains marchés sont trop réduits pour que les grands acteurs s'intéressent au corridor ouest africain. Mais s'il y a une intégration régionale, ils pourront venir et mettre en place des infrastructures dans ces régions.
Au-delà de sa position géographique privilégiée, l'Afrique possède quelques avantages. Selon Moses Asaga, l'ancien président de l'autorité pétrolière du Ghana.
L'Afrique a des ressources en main-d'œuvre pour construire les infrastructures nécessaires. Le continent a aussi la chance d'arriver sur ce marché au moment où les des unités flottantes de stockage deviennent la norme. Trinidad et Tobago, la Norvège et les autres ont eu des difficultés pour mener à bien leur grand projet d'unité de regazéification terrestre. Nous, nous allons bénéficier de cette nouvelle technologie d'unité flottante qui offre un meilleur retour sur investissement.
Mais la croissance du secteur gazier en Afrique doit s'accompagner d'une réelle volonté politique.
Nous nous sommes toujours concentrés sur la production pétrolière et personne n'a pensé au gaz. Nous devons maintenant aller très vite pour produire une législation qui va rassurer les investisseurs.
Au Nigeria, un très vif débat entoure actuellement le projet d'amendement de la loi sur le gaz naturel liquéfié.
Reportage de Lisa Fabian à Johannesburg. Armel Lecomte, là, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. Vous vouliez réagir à l'intervention de Chérif Salif Sy sur ces questions énergétiques. Je vous donne la parole pour 30 secondes parce que l'émission se termine.
Oui. Non, mais juste parce que toutes ces questions énergétiques, elles sont aujourd'hui, enfin, en Afrique, il y a plus de 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, c'est un enjeu majeur de développement parce que quand il n'y a pas d'électricité dans une école, ça veut dire que les enfants ne peuvent pas rester tard pour faire leurs devoirs.
Et donc,
il
n'y
a pas
d'électricité
chez eux. C'est pareil pour les écoles. Et ça a des questions avec le climat, c'est-à-dire que les choix qui vont être faits d'infrastructures énergétiques, si on investit dans le pétrole ou dans le gaz, comme on vient de l'entendre dans le reportage, ça va enfermer un certain nombre de pays en développement dans un développement qui va être avec les énergies fossiles, et la planète ne peut pas le permettre. Donc on a besoin que ces investissements ils aillent dans les énergies renouvelables et que les Africains soient au cœur de ces choix.
Alors on a compris le message, un plan Marshall renouvelable. Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous trois, Armel Lecomte, Chérif Salif Sy et Grégoire Otta Graziosi de nous avoir éclairés sur ce plan Marshall. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.